France Inter.
Pour moi, l'écriture, c'est vraiment une façon d'aller toucher ce qui n'est plus là, mais qui, à mon avis, n'en demeure pas moins présent. Quand j'écris, j'ai vraiment l'impression que j'accède à une autre dimension du monde et j'ai l'impression que l'écriture, c'est quelque chose qui, tout en nous aveuglant, nous permet d'accéder à l'invisible.
L'école, c'était une catastrophe. Et donc, je me sentais complètement inapte et je pensais que j'étais folle, enfin, que c'était moi le problème et qu'il n'y avait pas de place pour les gens comme moi dans cette société. Et donc, il fallait m'en créer une autre. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'écris aussi, c'est pour témoigner de ça et puis de le transmettre. Aujourd'hui, que j'ai trouvé une piste.
Auditeur de France Inter, vous connaissez sans doute son nom et peut-être aussi ses livres. Il a obtenu en 2022 le prix du livre Inter pour Mahmoud ou La montée des eaux, la dictature, les tortures en Syrie racontées par son personnage, un poète syrien. Il y a aussi le musée des contradictions ou Le plus court chemin. Le nouveau roman du Belge Antoine Wauters, Haute folie, suit la vie de Joseph, dont la famille a connu des drames. Il grandit sans savoir ce qui s'est réellement passé, alors comment vivre avec des silences? Comment se construire avec des tragédies tues? Haute folie chez Gallimard, un très beau livre dans lequel nature, philosophie et poésie ont une place de choix. Bonjour Antoine Wauters.
Bonjour.
Bienvenue dans le Grand Atelier, aux côtés de votre invité, une consoeur, autrice suisse de Emmenez-moi, aux éditions Équateur. Bonjour Sarah Gisler.
Bonjour.
C'est un Grand Atelier francophone, aujourd'hui, en direct, sur France Inter.
France Inter. Le Grand Atelier, Vincent Josse.
Vous savez que j'ai appelé Charline Vanhoenacker pour bien prononcer votre nom.
C'est très gentil à vous.
Elle m'a dit, tu dis Antoine Wauters, c'est tout. Vous venez de Belgique, Antoine, de Wallonie. Je voudrais savoir à quoi ressemble votre village près de la ville de Teux, qui elle-même se trouve près de Liège, en Wallonie.
Village de 250 habitants. Avec des maisons en pierre assez superbes, je trouve. Et c'est une région qui a été déboisée largement au Moyen-Âge, ce qui fait qu'il n'y a pas le côté, je trouve, sordide des forêts ardennaises qui sont pleines de résineux, que j'aime pas tellement. Donc ce sont c'est montueux, ça veut dire qu'il y a beaucoup de relief, ce sont des plateaux, et c'est assez idéal pour les randonnées, par exemple.
Oui. Ouais. Ce que vous pratiquez pas mal.
C'est la petite Écosse. Moi, je trouve qu'il y a un côté écossais qui me plaît beaucoup. Et une rudesse aussi du climat, qui n'est pas pour me déplaire non plus.
Dans Haute Folie, on peut trouver un petit peu le paysage que vous avez sous les yeux là-bas?
Oui, alors les lieux ne sont pas nommés, mais c'est sûr qu'il y a une partie des lieux dans lesquels j'ai grandi, qui m'ont inspiré, qui m'ont marqué, qui ont façonné aussi ma manière d'être au monde, peut-être mon corps aussi. Et puis, c'est aussi des territoires que j'invente, que j'imagine, que je rêve, et qui sont probablement inspirés par les territoires du Nord, où j'aime me perdre certains étés. Donc, je pense au Danemark, à la Suède, à ces grands espaces. Mais moi, j'aime l'idée de créer une géographie parallèle à la nôtre, qui est un mixte de données réelles et puis de choses inventées.
Oui, je me suis dit que Haute Folie, puisque c'est le titre du roman, et c'est aussi un lieu dit, peut-être qu'il existe ou qu'il n'existe pas. On peut fantasmer aussi sur ce lieu.
Oui, bah je l'espère. J'espère que... Ah, il existe, mais il y a plein de hautes folies en Belgique. Il y a des folies en France. C'était des résidences secondaires au 19e siècle.
Oui.
Moi, ça concerne plutôt une ferme, probablement située sur une hauteur. Et puis, voilà, c'est effectivement... le fil rouge du livre, c'est la folie qui s'abat sur une famille. Donc, le titre me semblait... tout indiqué.
C'est vrai. Sarah Gisler, Suisse, romancière, voyageuse depuis l'âge de 19 ans. Est-ce que votre bureau à vous, c'est le monde que vous arpentez beaucoup à pied? Est-ce que c'est le crayon et le carnet sur les genoux? Ou est-ce que vous avez un bureau comme tout écrivain?
J'écris dans mon lit.
Dans votre lit. Oui. Comme Lydie Salvaire.
Alors, voilà, peut-être. Mais alors, je voyage un peu moins depuis la dernière fois que je suis venue dans ces studios.
C'était pour le livre Petite ?
Oui, tout à fait.
En 2018 ?
En 2018.
Oui.
Et depuis, bah, ma vie s'est un peu transformée. J'avais vécu durant un temps sur un bateau, ça je le raconte dans Emmenez-moi.
Oui.
Et puis ensuite, la vie a fait que je rentre en Suisse pendant un temps, mais je pars toujours environ 3 mois par an. Et c'est à ces moments-là souvent que j'écris, oui.
Vous partez toujours seul, ça fait partie du...
C'est un principe. On a été deux.
Oui, vous avez été deux, mais est-ce que c'est mieux d'être seul quand on randonne?
Alors, oui, pour marcher, oui. Ensuite, marcher, là, oui. C'était d'autres manières de voyager que j'ai...
Bah oui, il y a le bateau qui a une place de choix, en tout cas la première place dans Emmenez-moi, oui. Une virée en bateau qui n'est pas non plus une réussite totale.
C'était même un gros échec, on peut dire, mais un bel échec.
Elle ose commencer par un fiasco, il faut le faire. Deux écrivains cet après-midi dans le grand atelier et une musicienne britannique de 27 ans. Elle s'appelle Joy Crooks, elle chante « Somebody to you ».
Le grand atelier sur France Inter.
Antoine Wauters, Joseph est le héros de votre roman Haute Folie. On le découvre enfant, puis on va le voir grandir peu à peu, jusqu'à au moins la quarantaine. Il est élevé par son oncle et sa tante, puisque ses parents sont morts quand il était enfant, et rien ne lui est dit, de longues années d'ailleurs, de ce drame familial. Il ne l'apprendra qu'adulte. Alors il grandit avec les fantômes de ses parents, il grandit avec des absences, dans un milieu rural, et il va devenir instituteur, mais... L'appel de la nature, l'appel de la solitude va toujours le rattraper. Il peut aimer une femme, mais une force le pousse à partir. Je voudrais savoir par quoi il est mû, votre personnage. C'est quoi sa quête?
Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas été aimé, qui n'a pas reçu d'amour. C'est un orphelin, et je crois qu'un orphelin, toute sa vie, reste marqué par le manque. Et je pense qu'une manière d'exprimer ce que Joseph vit et ce qui le guide à travers ses années d'errance, de marche, de recherche de lui-même, c'est de dire que quand ses parents décèdent, même si on ne lui dit pas la vérité, qu'on ne lui dit pas comment ils sont morts et de quoi ils sont morts, ni ce qu'ils ont fait d'ailleurs avant de mourir, moi j'ai l'impression qu'un orphelin c'est quelqu'un qui meurt le jour où ses parents meurent aussi. Et qu'en fait, toute sa vie, sa quête, ça va être d'essayer de se remettre au monde quotidiennement, de se redonner la vie et donc d'essayer d'honorer cette chose, ce temps qui nous est imparti. Et c'est pour ça que ça va devenir une sorte de... Il va être sur une ligne de crête constamment entre la sagesse et la folie. Mais la sagesse, il va la trouver en contemplant la nature, en faisant de grandes et longues randonnées et en essayant de ne pas sombrer dans cette folie qui a conduit ses parents à la mort.
Quoi. Ouais, difficile d'échapper à un déterminisme finalement.
Oui, c'est ça. Il y a cette idée de déterminisme dans le livre. Effectivement, il naît le soir où un incendie ravage la ferme de la Haute Folie.
Il va être en feu toute sa vie, cet enfant.
Il va être en feu toute sa vie. Et je pense que son combat, quand je parle d'amour, essayer de s'aimer soi et puis d'aimer la vie, c'est essayer de transformer ce déterminisme en quelque chose qui est de l'ordre de la liberté. Nietzsche parle de ça. La mort fatigue, l'amour du destin. Et c'est en gros ce qui nous tombe sur le coin de la figure et qu'on n'a pas choisi. Peut-être que précisément parce qu'on ne l'a pas choisi, on devrait essayer de s'appliquer à l'aimer et à le faire nôtre et à l'accepter. Il y a quelque chose du stoïcisme là-dedans, moi qui me parle beaucoup. Donc retrouver un espace de liberté dans quelque chose qui a priori semble ne pas en contenir, ça m'importe beaucoup et j'essaie de raconter cette vie.
Totalement ça, votre roman. Vous qui étiez à la base philosophe,
hein, oui,
vous avez enseigné ?
Oui, j'ai enseigné, oui. Mmh.
Il est à la fois, Joseph, dans un mal-être existentiel, mais aussi dans un bien-être total par moment. Quand il est en communion avec la nature, on a envie d'être avec lui. Mmh. Ça n'est pas un livre noir. Il y a cette volonté de joie.
Ouais. Mais je l'espère. J'ai dit récemment dans un entretien que la marche m'avait sauvé la vie.
Oui.
Et beaucoup plus que la littérature, que la marche avait cette capacité de casser en nous l'angoisse dont on est porteur. Et je le crois. Et c'est vrai que le personnage de Joseph, à certains égards, est proche de moi. Et je lui ai donné cet amour de la marche parce que c'est la façon qu'il a, lui, de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec ses fantômes ou d'essayer de les apprivoiser. La marche, c'est marcher dans des lieux qui peuvent être inspirants, qui peuvent être apaisants, mais c'est aussi marcher dans nos propres paysages intérieurs. Et ceux-là sont parfois hantés. Lui, c'est quelqu'un qui est hanté complètement de l'intérieur, mais qui va trouver, grâce à la nature, grâce à cette faculté qu'il a de s'y plonger, de s'immerger, il va trouver une forme d'apaisement.
Oui.
Et ça m'importe d'écrire des livres qui parlent de notre humanité, mais de ce qui est aussi en dehors de notre monde humain. Pour ne pas oublier que même si on écrit des livres, qu'on raconte des histoires et qu'on est très concerné par le sort de nos semblables, ou de nos dissemblables parfois, ce qui ne relève pas de l'humanité, c'est-à-dire les végétaux, les animaux, le monde muet en gros, moi je trouve qu'il est extrêmement important. Et Joseph, c'est quelqu'un qui fait passer aussi ce message-là. Il n'y a pas de thèse dans le livre, ça reste un roman, mais en tout cas c'est une préoccupation... Qui est mienne.
Vous êtes marcheur, Sarah Wissler aussi. Je rappelle que vous avez écrit Emmenez-moi. Je voudrais qu'on écoute un autre grand marcheur qui a disparu il y a 4 ans. C'est le médecin généticien et écrivain Axel Kahn.
C'est très difficile de dire ce que me procure la marche parce que cela est plus un état d'être que cela n'est une activité. J'ai marché effectivement toute ma vie. Je suis très profondément malheureux lorsque je ne peux pas marcher. C'est de loin l'activité la plus propice à la pensée. Et cela pour plusieurs raisons. La première, évidemment, c'est que quand vous réfléchissez confortablement installé dans votre fauteuil ou sur votre lit, en règle générale, au bout d'une demi-heure, vous dormez d'un point fermé. Alors, la deuxième raison, c'est que la musique de la pensée se stabilise, s'articule sur le rythme de la marche. Et la troisième raison, c'est que, évidemment, c'est une simulation, souvent une émotion esthétique qui en renvoie à d'autres. Et cela convoque dans ma pensée des images qui y sont enfouies. Et c'est un univers psychique, en réalité, qui se déploie.
Axel Kahn, dans Thé ou Café sur France 2 en 2016, marcher, c'est une stimulation pour vous aussi, Sarah Wissler. Est-ce que ça déploie votre univers psychique, pour reprendre les mots du médecin?
J'ai beaucoup souri pour l'extrait, parce qu'il le dit très bien. Et moi, ce que je dirais de la marche, c'est que ça rend moins con, quoi. Mais c'est beaucoup plus court.
Voilà.
Enfin, c'est assez essentiel. J'ai beaucoup marché plus à l'époque. Ensuite, j'ai plus bougé pendant plusieurs années. Et maintenant, je reprends un peu un rythme. Notamment avec un petit chien qui me suit partout, que je n'ai pas pris aujourd'hui.
Oui, mais il est sur Instagram, on peut aller voir votre Instagram.
Bien sûr, ouais. Non, il est, c'est la superstar.
On sent que c'est votre amoureux du moment.
Voilà. Mais donc oui, je l'ai pris aussi pour sortir et marcher, mais il préfère être au lit aussi. Donc on trouve un rythme, gentiment.
Alors pourquoi ça rend moins con? C'est-à-dire qu'on prend un petit peu de recul par rapport à des choses qui nous ont heurté, par exemple. Ça peut être ça.
Bah, je prends souvent la mouche assez vite. Et en fait, si je marche...
Et vous le racontez dans votre roman.
Voilà, bah, bien sûr. Il y a un certain caractère. Et si je marche... Je viens de Vevey, donc je longe un bout de lac. Et après, bah, je suis plus fâchée. Parce qu'en fait, c'était complètement con d'être fâchée pour ça.
Ouais.
Et ouais, c'est vraiment quelque chose qui est assez essentiel. Et je suis contente de le retrouver petit à petit. Et j'espère être bientôt assez en forme pour bouger un peu plus loin et plus longtemps.
Antoine Botters, vous, est-ce que les phrases du roman que vous êtes en train d'écrire ou que vous allez écrire vous viennent quand vous marchez ?
Non, parce que moi, quand je marche, je ne pense plus à l'écriture, à la différence de ce que Axel Kahn disait. Ça me permet justement d'accéder à un espace où les mots n'existent plus, ou beaucoup moins. Je pars avec l'envie de travailler un texte, donc je pars marcher pour essayer de préciser des choses, et en fait je me rends compte qu'au bout de 5-6 heures de marche, l'envie d'écrire a complètement disparu.
Vous êtes un autre.
Ben je suis heureux, donc je n'ai plus besoin d'écrire.
Parce que écrire c'est être malheureux.
Non, mais c'est quand même être pas totalement dans la vie. Pour écrire, il faut regarder ce qui nous entoure, il faut avoir une position qui est un peu à côté, ou au-dessus, ou en dessous, peu importe, mais on n'est pas complètement dans la vie quand on écrit.
On est dans le silence.
Oui, on est dans le silence. En revanche, on est, je crois, quand on marche et quand on écrit dans le même espace. Pour moi, quand je marche, j'atteins un état psychique, ou un lieu. Je rejoins un lieu qui est assez semblable au lieu de l'écriture.
Dans une forme d'introspection ?
Ben, c'est un lieu silencieux, quoi. C'est un lieu silencieux, c'est-à-dire que ça semble paradoxal qu'un écrivain dise que le point d'ancrage, que la source de son écriture soit le silence, mais moi je pense que dans l'amour des mots, il y a aussi un amour du silence. Et dans la marche, c'est ça que je vais chercher aussi, c'est tout ce qui est de l'ordre de la pensée, qui déferle, qui défile et qui nous donne envie d'écrire, de parler, ça a tendance à s'estomper. Et à disparaître, et c'est pour ça que je parle de bonheur, c'est parce que les mots sont parfois un obstacle entre soi et la possibilité de s'abandonner au monde.
Est-ce qu'un jour vous serez très heureux, c'est-à-dire que vous n'écrirez plus ?
Oui, il me reste 3 livres à écrire. Non, je dis parfois qu'il me reste 3 livres entre moi et mon bonheur.
Mais tu dis ça à chaque fois, non ?
Non, là je le mesure parce que je vois un peu les livres que j'ai envie d'écrire. Mais ceci étant, je vois quand même en vieillissant que là où j'opposais beaucoup l'écriture et la vie avant, c'est-à-dire que quand j'écrivais, je ne vivais pas, et quand je vivais, ben, généralement je n'écrivais pas. J'ai l'impression que maintenant les deux vont main dans la main.
Ça, c'est
que je parviens à écrire et à vivre concomitamment. Je suis capable de m'interrompre dans l'écriture d'un roman parce que on demande...
Parce que vos enfants vous appellent.
Ouais. Alors qu'avant, j'étais le type qui restait dans sa petite pièce d'écriture et qui tournait le dos au monde. Donc,
Alors vous êtes plus facile à vivre aujourd'hui ?
Franchement, je crois. Mais je le mesure de moi à moi, en fait. Je pense
vous
que
ça
je
parce
me
que
suis adouci. Ouais.
Vous avez commencé ce livre, Haute Folie, en 2009. Ouais. Vous n'aviez pas d'enfants, Antoine Botters.
C'est vrai.
Maintenant, vous en avez 2, mais vous les élevez seuls. Enfin, vous les avez une semaine sur deux, j'imagine.
Oui, les week-ends, plus précisément.
Ouais. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, puis d'être seul avec eux, ou seul, vraiment seul, ouais, est-ce que ça a nourri le livre aussi ?
Oui, ça a nourri le livre, mais ça m'a surtout... ça a créé une coupure dans ma vie. Se séparer de quelqu'un qu'on n'aime plus, on sait tous ce que c'est. Mais se séparer de ses propres enfants et se retrouver dans une vie où on n'est plus au quotidien avec eux, c'est tout autre chose. Et donc, c'est pas tellement que ça a nourri mes livres, c'est que je porte en moi cette blessure-là, cette espèce de manque-là, et ce manque en question, on le retrouve dans mes derniers livres. Le plus court chemin, Marmoud ou la montée des eaux, et celui-ci, énormément.
C'est vrai que ce sont des livres sur le manque.
Ouais, ouais,
là,
ouais.
En l'occurrence, le manque des parents.
Absolument, absolument. Ouais, ouais. Donc ça m'a terriblement marqué. Et ceci étant, voilà, j'étais un enfant déjà nostalgique. J'ai pas attendu de vieillir avant de connaître le sentiment de nostalgie. J'ai toujours été super soucieux du bien-être de mes parents. J'avais l'obsession quand mes parents étaient plus jeunes et que moi j'étais enfant. Je pensais que chaque fois que j'allais rentrer de l'école, par exemple, j'allais les retrouver morts.
Ah oui.
Et donc. Donc l'âge, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui, à mon avis, est profondément abstrait. Enfin, je le vis comme ça. J'ai l'impression que quand j'étais jeune, j'étais déjà un peu vieux. Et que maintenant, je vieillis et j'ai des heures dans la journée où je pense que je redeviens enfant. Donc tout est bien.
J'aime bien le portrait que vous faites de vous.
Oui.
D'autant plus que vous êtes là, en face de nous, tout beau. Il est beau, Antoine Botters. Vous avez des yeux pétillants. Je trouve que vous exprimez physiquement la joie.
Ben, j'y travaille, c'est nouveau. Mais c'est nouveau d'essayer de... justement. J'avais une phrase qui m'insupportait, c'est quand des amis voyaient que j'étais dans des périodes dépressives, ils me disaient « prends soin de toi ». Ça me semblait abstrait,
ah oui, cette formulation. Ça ne veut pas dire grand-chose. C'est bienveillant, comme on dit aujourd'hui, c'est j'aime ça. Pas cet adjectif, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Non. Et ceci dit, maintenant, ben je crois que je comprends ce que ça veut dire, de prendre soin de soi, et donc peut-être que ça se voit, et j'en suis ravi si c'est le cas.
La quarantaine épanouie, ça s'appelle, Monsieur Waters. Vous avez votre livre devant vous, vous allez nous lire un petit extrait, puisque Joseph, l'instit, et cet ascète, il a quelque chose d'un saint, en fait. Il cherche une forme de sainteté. Il écrit dans des carnets ce qu'il vit, ce qu'il traverse, ce qu'il voit, ce qu'il respire, ce qu'il observe. Et c'est un moment, j'ai choisi pour vous et pour les auditeurs, un moment justement où il est en train d'écrire un carnet.
Quand je marche dans des coins où personne ne me connaît, je me surprends à fermer les yeux. Et, alors, je suis envahi par le chant des moissons, le vent qui hurle, des rires d'enfants. Et ce mélange de sons est un ensorcellement. Rien n'est plus doux que quand le monde vous entre par les oreilles. Car alors tout se mélange. Ce qui était en haut se retrouve en bas, l'important devient secondaire, et tout le temps où ça dure, plus personne n'a le dessus sur personne. Les mots des hommes sont refendus dans la voix des oiseaux. La vie parle une langue pour tout le monde, arbre, sol, humain et bête. Fermez les yeux, rien n'est plus doux que quand le monde vous entre par les oreilles.
Un extrait de Haute Folie de Antoine Waters, par Antoine Waters. J'aimerais votre avis sur le livre, Sarah Gisler. Vous ne sentez pas obligé de dire que c'est formidable, mais je voudrais vraiment que vous ressentiez et que vous nous disiez justement ce que vous ressentez.
Alors, je l'ai lu il y a un petit mois, je pense.
Et alors, qu'est-ce qu'il en reste ?
Pas mal de choses. Moi, j'ai écrit directement à Antoine pour lui dire qu'il y avait quelque chose qui me faisait penser à Steinbeck, de Alès d'Eden, que Joseph aurait pu être un de ses personnages, que j'aurais aimé que ça soit une fresque, puis que ça continue, et qu'il s'installe plus, et qu'il développe d'autres personnages. Et je l'enjoins à faire ça pour la suite. Je lui le répète bien assez.
C'est-à-dire plusieurs personnages, quelque chose de plus polyphonique.
Voilà, ça me plairait. Mais dans nos écritures, on est aussi différents qu'on peut l'être, je pense.
Ah, ça, vous ne vous ressemblez pas dans le style.
Il est très poli, mais dans le sens polir. Enfin, il polie vraiment les mots. Tandis que moi, c'est le bordel. Et donc, c'est un peu deux faces d'une même pièce, j'ai l'impression, parce qu'on
ne trouve pas que ce soit le bordel. C'est juste que c'est une autre manière de vivre.
Et voilà, non, mais c'est moins.
Et d'être à la vie.
Voilà, on est très différents, mais on se rejoint. Et j'ai l'impression qu'on vise la même chose.
Sarah Gisler, il faut préciser que dans votre texte, dans votre livre Emmenez-moi, il y a plusieurs choses, plusieurs chapitres, mais il y en a un qui est très important, me semble-t-il, c'est la mort de votre père et la mort décidée par votre père qui était malade, donc en Suisse, et qui un jour décide de recourir au suicide assisté. Vous racontez ça sans pour autant, Antoine Waters, que le livre sombre dans une douleur trop profonde pour le lecteur. Au contraire, il y a une légèreté parfois, il y a de la vie.
Ouais, c'est ça qui m'a touché dans le livre de Sarah, c'est le fait que ce soit pas mélodramatique. Moi, ça m'a terriblement ému. J'ai lu le livre dans un train, et effectivement, la scène du suicide assisté, elle est très forte, mais il y a quelque chose qui est profondément vivant et qui est vivant jusque dans ce moment dramatique. Puis il y a énormément d'humour, et puis ce qui moi me fascine aussi, c'est que Sarah dans son écriture, et je découvre à travers son écriture probablement la personne qu'elle est dans la vie aussi, pour moi elle incarne une impossibilité, c'est-à-dire qu'elle a voyagé partout dans le monde. Moi je suis quelqu'un d'extrêmement casanier.
Tout en marchant dans votre région.
Oui voilà, mais je m'en tiens, je dis que ma laisse, la distance qui me permet de m'éloigner de chez moi, elle fait 100 km. Ouais. Au-delà, j'ai des angoisses. Sarah, elle voyage pour moi, en fait. Et donc, ses livres en gardent la trace, et je trouve ça extrêmement précieux aussi.
Le premier livre, c'était Petite, c'était plutôt sur votre vingtaine.
Oui.
Et là, c'est plus récent, ce drame de la perte d'un père qui décide de mourir, c'est y a pas si longtemps que
J'avais 25 ans, donc c'était toujours dans la vingtaine, mais il m'a fallu 4 ans pour réussir à écrire ce livre.
J'ai l'impression que vous écrivez un livre que vous n'avez pas trouvé dans votre bibliothèque. Il manquait peut-être un livre où on dise à la fois la tristesse et la joie et la reconstruction.
C'est ça, c'est exactement ça. Je cherchais un livre qui m'aiderait dans ce deuil et je ne l'ai pas trouvé. J'ai passé énormément de temps dans les bibliothèques à lire les livres de deuil, de suicide, de mort.
Il y en a beaucoup.
Il y en a énormément, de la mort du père, de plein de choses, mais en fait, c'était pas ça, c'était pas drôle. Le livre n'est pas que drôle, évidemment, c'est pas une blague.
Non, il est vivant.
Voilà, et pour moi, c'était important de créer ça, parce que, comme petite, pour moi, c'était un livre important pour les futurs voyageurs. Là, c'est pour les futurs endeuillés. Et j'ai l'impression que c'est un livre qui peut être utile et qui, c'est un livre d'amour.
Vous avez des retours, forcément?
Oui, bah, j'en ai dans les salons.
Moi, qu'est-ce qu'on vous dit généralement, alors? Merci.
Merci, plus que bravo. Merci, oui. Et souvent, mon stand, c'est celui auquel on pleure, quoi.
On va écouter Brigitte Fontaine. Pourquoi Brigitte Fontaine ? Parce qu'elle a écrit une sublime chanson, Supermarket, qu'elle a partagée au micro en studio avec Arnaud. Ah, et Arnaud a joué un texte au cinéma, un scénario d'Antoine Waters.
Absolument.
Racontez-nous ce film en quelques mots.
C'était le film Préjudice avec Nathalie Baye et Arnaud. Et c'était un huis clos familial. Et Arnaud était extraordinaire dans le film, comme Nathalie Baye d'ailleurs. Et ça a été une joie de passer du temps avec eux. Et puis, c'est un chanteur que j'adore, toujours maintenant. Mmh.
Voilà. Vous l'écoutez de temps en temps ?
Ah, je l'écoute énormément. Oui. Ouais, je trouve que c'est quelqu'un d'intègre.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que je pense que c'est quelqu'un qui n'a jamais cherché à plaire et qui a toujours fait les chansons qu'il avait envie d'écrire. Il les a incarnées à sa manière et il a, à mon avis, atteint des moments dans son interprétation qui sont bouleversants. Si on regarde, il y a l'émission avec Christophe de Chavannes où il chante « Dans les yeux de ma mère » qui est une de ses chansons phares, les plus importantes. C'est un moment de télévision extraordinaire. Parce qu'il est là, il est intense et il est vrai. On voit que c'est pas quelqu'un qui cherche à faire. Il est vraiment lui-même traversé par cette émotion, quoi.
Écoutez,
c'est un interprète immense.
Écoutez son compagnonnage avec la grande poétesse, ouais, Brigitte Fontaine. Ça commence comme ça. Au supermarché de nuit, j'ai rencontré un maudit.
Au supermarché de nuit, j'ai rencontré un maudit, rejeté là dans son corps, comme un enfant de la mort. On est allé boire un verre, j'avais reconnu un frère, j'étais plus seul sur la terre, avec l'affolant mystère. Après 4 ou 5 whisky, les phares entrés dans Paris, accompagnaient la dérive de splendeur toujours plus vive. On n'avait rien à se dire, on crevait presque de vivre en chantant notre malheur. On se connaissait par cœur.
Ses yeux étaient d'or fondu, coulant dans mes yeux perdus.
On a vu 36 chandelles quand on s'est roulé une pelle. On a fini à l'hôtel du côté de Saint-Marcel.
On ne sait jamais revu.
C'était une soirée de plus.
Au supermarché de nuit, j'ai rencontré un maudit, projeté là dans son corps, comme un enfant de la mort.
Le Grand Atelier, Vincent Josse, sur France Inter.
Je me tourne à nouveau vers vous, Sarah Gisler, qui, dans Emmenez-moi, entre autres, racontait ce moment où votre père dit à ses enfants, ben voilà, les enfants, j'ai pris cette décision de mourir. Et il va y avoir ce suicide assisté. Mais ce qui est beau, c'est que vous racontez que votre père, quand vous étiez encore un peu gamine, il acceptait toujours que vous partiez, voyager. Et vous vous dites, alors que vous avez envie de pleurer, de lui dire non, c'est hors de question que tu meurs. Vous dites, ben, il m'a laissé partir, alors je dois le laisser partir. C'est beau ce parallèle que vous faites entre vous deux. C'est un lien d'amour que je trouve magnifique.
Merci. Mais oui, c'est un peu ça. Après, c'était, je pense, la chose la plus dure que j'ai faite dans ma vie. Et dans ma tête, c'était « Ne t'en va pas » de Linda Lemay, constamment.
Ah oui, parce qu'il y a des chansons.
Oui, bien sûr. En plus, il y a des chansons.
Paroles de chansons, il y en a plein de bouquins.
Oui, alors oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y avait cette chanson au moment où mon père allait me dire qu'il allait partir. Et ça tournait dans ma tête et il ne faut pas. Et je crois pas. Enfin, je pense qu'aimer, c'est la phrase bateau. Hein. Aimer les gens, c'est aussi les laisser partir. Mais ça a du vrai. Et moi, quand j'avais 19 ans et que je lui ai dit bah, « je me tire pendant des années en stop, toute seule, sans thune, et à bientôt », c'était pas facile non plus. Alors, je suis revenue, mais quand même, il m'a permis ça. Et il m'a appris la liberté, donc même dans ce geste-là, dans sa mort.
Vous admirez toujours votre père ?
Oh, bah, constamment.
Oui. Hein, constamment. Est-ce qu'il est toujours autant présent dans votre tête, alors que le décès a eu lieu quand vous aviez 25 ans, donc il y a à peu près 7 ans ?
Attendez, j'ai quel âge ? Oui, il y a 5 ans.
5 ans, vous avez 30 ans, oui.
Ouais, à peu près, oui. C'est 5 ans et demi, je pense.
Où est-ce que sa présence est différente ?
Alors, bah, c'est pendant plusieurs années, j'y ai pensé en étant très triste. Et je voyais que la douleur. Et depuis que j'ai fini d'écrire en Emmenez-moi, donc je l'ai fini en avril dernier, c'est parti. J'ai plus de peine. Je crois que j'ai mis tout dans ce livre, tout ce que j'avais dans ce livre. Et maintenant, il me reste ce qu'il m'a donné. Donc, j'ai plus une sensation physique de lui, de nos ressemblances, de comment je me sens par rapport à ce qu'il m'a appris, que de lui-même. Enfin, je n'ai plus exactement le son de sa voix, je ne reconnaîtrais pas son odeur. Si je le voyais maintenant, peut-être je ne saurais même pas quoi lui dire, en vrai. Mais c'est quelqu'un qui est fondamental, que j'ai dans la peau.
Est-ce que le temps, Antoine Waters, permet tout et apaise tout ?
Bah, je ne pense pas, non. Je pense que le temps, forcément, apaise, mais puisque là, on parle de manques qui sont fondamentaux, ces manques restent. Après, ces manques-là, ils nous permettent aussi de découvrir de nouvelles choses, de nous découvrir aussi dans des dimensions nouvelles de ce qu'on est, de nos vies. Mais non, parce que sinon ce serait trop facile. On est là pour être blessé aussi, mais alors c'est qu'est-ce qu'on fait de nos blessures, de nos manques.
Bah, tous les deux, vous les écrivez.
Oui,
en tout cas, vous écrivez.
Ouais. Et puis je pense qu'il faut les vivre. Je crois que c'est très important de se laisser toucher complètement par un deuil, par des absences, par des choses dures qui nous arrivent. C'est pas grave, en fait. Je pense que moi, ce qui est grave, et c'est peut-être aussi un peu ce dont je parle dans le livre, c'est quand on a des choses difficiles qui nous arrivent, de ne pas pouvoir en parler, de ne pas pouvoir les exprimer. Là, alors, il y a une sorte de double punition, de double peine. Et Sarah, dans son livre, quand je t'entends en parler, je peux comprendre qu'effectivement, ça t'a permis de dépasser un peu l'état paralysant de la tristesse, parce qu'on sent que, voilà, il y a eu quelque chose qui a été fait à partir de cette immense douleur.
Bien sûr, non, puis j'ai pas hésité à aller mal, quoi. J'ai passé quand même des années au fond du bac, le fond du fond, quoi. Il y a rien en dessous.
Est-ce que vous arriviez à écrire à ce moment-là ?
Rien du tout. Non, j'écrivais quand j'arrivais plus ou moins à prendre une douche. Enfin, c'était vraiment, j'ai dû réapprendre à vivre complètement.
Et est-ce que vous marchiez ? Est-ce qu'au moins vous faisiez ça ?
Rien. Je faisais rien. Non, je ne bougeais pas. Et cette peine, je l'ai vécue à ce stade pendant 2 à 3 ans. Donc vraiment dans une détresse infinie où j'étais pas loin de l'asile plusieurs fois. Enfin. Et c'est fait. Maintenant, j'ai été assez triste, donc je peux de nouveau être contente. Ouais. J'ai l'impression d'avoir vécu ce deuil, et comme tu disais, Antoine. Puis...
Ça veut dire que vous avez envie de quel livre aujourd'hui ? Ce serait votre troisième roman ? Qu'est-ce qui pourrait être un troisième roman ? Vous avez déjà une petite idée ?
Sarah Guislain.
Oh, ça c'est compliqué.
Oui.
On verra.
On en parlera une autre fois.
Oui.
Antoine Waters, ce serait pas mal de lire un extrait du livre de Sarah qui ne se sent pas capable de lire. Enfin, qui dit, moi je lis pas bien. Est-ce qu'Antoine, tu veux bien lire mon... Voilà, vous avez dit oui.
Antoine qui ne voit plus très bien de près. Donc,
oui, Antoine, 44 ans, qui devient un petit peu presbyte.
Voilà. C'est un passage qui m'avait beaucoup plu parce que ça fait partie des tonalités plutôt rieuses du livre.
Et Dieu sait s'il y en a.
Ouais. Et c'est sur les surnoms. Et je trouve que utiliser des surnoms pour parler des gens proches, c'est une manière de leur dire qu'on les aime. L'une des choses à savoir sur notre famille, c'est que personne ne se fait appeler par son prénom. Chacun s'est vu affublé d'un surnom arbitraire et changeant au fil des époques. Laura s'appelle Pesette ou Petit Pont, après avoir été le microscope. Alex est devenu Flex, mais mon père l'appelait Lochien. Moi, c'est Zizi. Sarah égale Sarrazin égale Sarrazinette égale Zinette égale Zizi. Mais pendant toute mon enfance, j'étais Madame Muller, comme une dame dont la maison se trouvait sur la tournée de mon père. Hilde est aujourd'hui Gus, après s'être longtemps fait appeler Épaule de Bœuf.
Et votre père, vous l'appeliez comment, les enfants ?
La vieillerie.
Oui, j'aime bien. La vieillerie.
Non, on l'appelait Huton pendant longtemps, puis quand il a un peu décliné physiquement, on l'a appelé la vieillerie. Donc ça peut sembler cruel comme ça, mais c'est que de l'amour.
Ça le faisait rire ?
Beaucoup.
Votre père, il aimait beaucoup le chanteur Renaud.
Il était fanatique, oui.
Il a reçu une carte dédicacée un jour.
C'est moi qui ai reçu la carte.
Oui, mais...
Alors j'ai reçu une carte pour Petite.
C'est lui qui vous l'a lu.
De la part de Renaud. Enfin, lui, il l'a reçu à la maison parce qu'il habitait chez lui et moi, j'étais en voyage. Et puis, il était complètement fou un jour en me disant que c'est le plus beau jour de sa vie. Puis je disais, mais enfin, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, il a reçu à la maison une carte de Renaud qui disait « Bravo, Sarah, pour votre livre, bisous », un truc très sympa et, ouais. Et assez sobre. Et pour lui, c'était le truc le plus énorme qui lui arrivait. Et moi, j'étais hyper touchée parce que j'ai pu rendre mon père fier dans ma vie. C'est quand même quelque chose de très joli. Et aujourd'hui, j'ai l'urne de mon père à la maison avec la carte de Renaud à côté.
Elle est posée où ?
Sur son meuble de télévision.
Et ça ne vous pose pas de problème de l'avoir à côté de vous, au contraire ?
Oh, pas du tout, non. Non, non, il n'y a plus les cendres, elles sont au cimetière.
D'accord.
J'ai gardé juste l'urne. Et non, je ne sais pas, de toute façon, j'ai une sorte d'hôtel aux morts, parce que j'ai aussi eu d'autres morts. Mm-hmm. Donc voilà, j'ai...
Il y a beaucoup de, je le disais tout à l'heure, de paroles de chansons dans votre roman. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais on a fait un petit, avec David Le Prince qui réalise aujourd'hui, on a fait une sorte de florilège de toutes ces chansons que vous lirez si vous lisez Emmenez-moi. Et vraiment, je vous le conseille.
Venise n'est pas en Italie, Venise c'est chez n'importe qui. Fais-lui l'amour dans un grenier et foutez-vous des gondoliers. Venise n'est pas là où tu crois. Venise aujourd'hui, c'est chez toi. C'est où tu vas, c'est où tu veux. C'est l'endroit où tu es heureux.
Mon bistrot préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistrot tranquille où il m'arrive de boire en compagnie de ceux qui peuplent ma mémoire.
Je ne parlerai pas l'absence. C'est tout le bien que je me souhaite de rappeler ton élégance, de faire tout pour que ça reste vivant, vivant, de faire tout pour que ça reste.
À moi, j'ai gorge en feu. À moi, pour les couples malheureux. À moi, juste un dernier coup la grande. Je me suis engagé dans la marée.
Elle a tout chanté par cœur, Sarah. Reggiani, Renaud, Ben Mazoué, les Cowboys fringants et Aznavour. Pourquoi Aznavour, Emmenez-moi ? C'est en référence au père, évidemment. Ça vous a paru évident ?
Alors, non, pas du tout. En fait, c'était, à la base, c'était pour en chantant très fort. En chantant très fort, Emmenez-moi. Et la vie se passe en chanson pour moi. Et c'est aussi comme ça que j'ai pu sortir du fond du bac, notamment en créant des karaokés avec mes amis. Alors c'est vraiment un livre sur le salut par les karaokés.
Ouais, il y a tout le chapitre qu'on évoquait.
Voilà, il y a toute une partie là-dessus. Et ouais, en chantant très fort, quoi. On traverse le monde comme ça. Et je crois que c'est une manière possible de vivre vieux, si on s'en vient.
Vous aimeriez mourir très vieille ?
Pas forcément, mais peut-être plus qu'à... Enfin, vraiment, j'ai voulu mourir à 25 ans quand mon père est mort, et j'ai eu 5 ans de rab, donc je vais quand même essayer de tenir encore un petit peu. Je suis pas vieille, on n'en sait rien. Je vais essayer de...
Est-ce que vous avez peur quand vous voyagez, puisque vous êtes une grande voyageuse depuis longtemps, Sarah Gisler ? Est-ce que la peur est parfois en vous ? Alors, où vous êtes insouciante.
Je rejoins l'avis de mon père, qui était très juste. Il a peur pour moi quand je suis en Suisse, pas quand je suis en voyage. Aye. Parce qu'en voyage, je suis vraiment l'inverse d'Antoine. Où moi, 100 km dans ma zone d'habitation, je ne suis pas bien. Et dès que je pars un peu, c'est reparti, j'arrive de nouveau à respirer. Après, est-ce que j'arrive à maintenir le rythme d'une vie nomade sur 50 ans ? Je ne sais pas, ça me semble compliqué.
Je voudrais qu'on écoute un homme important dans la littérature et dans la poésie, c'est Christian Bobin, qui lui ne voyageait pas très loin, mais qui regardait en face de lui, en face de son bureau, ce qui se passait dans cette forêt. Il est avec Laure Adler.
Où vivez-vous ?
Dans une forêt, pas très loin de la ville où je suis né, le Creusot. À 10 km de là, il y a une forêt qui conjugue les deux adjectifs, les deux verbes du Morvan déjà, les fougères et le granit. Et la maison est dans une petite clairière, pratiquement fermée, et ne passe là en visite principale que des nuages, parfois un renard, beaucoup de geais, puis quelques daims ou des animaux comme ça.
Vous êtes coupé du monde ?
C'est le contraire. Je suis relié par ce retrait. Je suis relié par le silence des nuits où je peux écrire sur une longue table de chêne. Je pense que quand vous faites un pas de côté, vous ne quittez pas le monde, vous commencez enfin à le regarder dans les yeux. Quand vous êtes pressé contre lui, vous ne le voyez pas, vous ne vous voyez plus vous-même, vous ne savez plus rien, vous êtes comme affolé, pressé de tous côtés d'injonctions qui sont dites par personne. Vous vous reculez un tout petit peu et vous commencez à faire entrer en vous assez d'absence pour mesurer ce que c'est que la vraie présence, que la pure présence, la présence juste, et donc ce que c'est que le monde.
Antoine Wauters, c'est ce qu'un auteur comme Christian Bobin vous parle ? Vous avez le droit de dire
c'est
non.
C'est marrant, on
vous ramène à lui souvent.
On me ramène à lui pour le moment en permanence. C'est depuis qu'Éric Emmanuel Schmitt a dit que j'étais le Christian Bobin sans Dieu. Je l'ai lu, Christian Bobin, quand j'étais jeune, et c'est vrai qu'il a été important quand j'avais 15-16 ans et que j'ai commencé à écrire. Je ne l'ai plus lu depuis, mais après, quand j'entends cet extrait, je comprends qu'il y a des choses qui nous relient.
Il y a un cousinage quand même.
Oui, oui, sans doute. Puis après, il était effectivement croyant, ce que je ne suis pas. Maintenant, être un écrivain des bois, quelqu'un qui vit un peu coupé du monde, oui, je m'y retrouve. Moi, j'ai plutôt il y a des écrivains des villes et des écrivains des champs. Je suis clairement un écrivain des champs. Mais ceci dit, ma pente naturelle qui me conduit à vivre seul assez souvent et à m'isoler, je pense qu'elle est parfois dangereuse. Et je mesure, quand je suis ici à Paris ou quand on fait une tournée de promotion, à quel point les villes me plaisent.
Ah.
J'ai cette chance que, ayant grandi dans un milieu rural où il n'y avait pas d'offre culturelle, maintenant que je suis dans des villes, que je bouge, je vois aussi les beautés, les vertus de tout ça, de ce mouvement. Donc je ne serai jamais le chantre de la vie sédentaire, rivée à un morceau de terre. J'aime pas trop non plus l'idée de ça. mais j'adore la forêt. Je suis quelqu'un qui en ait besoin fondamentalement. En gros, je suis misanthrope 6 mois par an. Et casanier 6 mois par an, et puis après...
C'est très régulier.
Mais après, je suis prêt à écouter l'autre, vraiment. Je ne crois pas du tout qu'on soit capable d'aimer les autres en permanence. Je pense qu'il faut, parfois un peu de... oui, d'une distance.
Sarah Gisler, vous aimez les autres, vous ?
Oh bah, je suis absolument d'accord avec Antoine. Moi, j'ai tendance à partir au moins 3 mois par an le plus seul possible, parce que sinon, je ne supporte pas.
Par misanthropie ? Presque.
Presque, on n'est pas loin.
Mais la misanthropie, c'est jamais qu'un moment de l'amour, hein, en fait. C'est
voilà.
Ça que je veux dire, quoi.
C'est un passage obligé de l'amour.
Bien sûr, on a besoin de manquer de l'autre, manquer de confort, parfois, peut-être dans les voyages de Sarah. C'est ça, je pensais tout à l'heure au parfum, c'est très bête, mais
vous en propre parfum. Joseph aime les parfums, il aime le musc, par exemple,
ouais.
Et il le décrit dans ses cahiers.
Absolument, il est très olfactif, oui, comme garçon.
Ce que vous êtes.
Oui, ben oui, mais alors il y a une ironie, c'est que son propre parfum, notre propre parfum, celui qu'on aime, on finit par ne plus le sentir. Et donc ça veut dire qu'à nouveau, la question du manque, de la privation, c'est important. Pour aimer à nouveau ce parfum qu'on aime, il faut ne plus le porter pendant un certain temps.
Vous aimez le parfum de la cuisine libanaise, Antoine Waters aussi.
Ah, j'adore ça, ouais, ouais.
Vous cuisinez libanais pour vos enfants.
Ah, vous savez ça, c'est incroyable, oui, oui. Oui. Après, je suis en train de mentir, parce que est-ce que je cuisine vraiment libanais? Non, mais j'aime ça.
Vous ouvrez
une boîte. Je pense que je me suis essayé quand même quelquefois à des recettes libanaises. Non, mais j'adore. Puis j'ai voyagé là-bas, c'est important.
Bien sûr. Et vous avez écrit Mahmoud. On va écouter de la musique, vous voulez bien?
Oui.
Est-ce que vous connaissez Gaëtan Roussel?
Oui.
Antoine Waters? Oui, ben, il a une nouvelle chanson. C'est Ta part, en direct sur France Inter.
Ta part de savoir, d'oublier, de revoir. Ta part de bonheur, de pleurer quand sonne l'heure. Ta part de crier, de contredire, oui de t'enfuir. Ta part de vivre le meilleur comme le pire. Ta part de vouloir, de recevoir, de réussir. Ta part de sourire, de regretter et de ne rien dire. Ta part entière, ta liberté, tendre et chère. Ta part d'ombre, de lumière, d'idées sombres. De virage, de ligne droite, tes deux visages, ta part d'ange et de démon, ah oui, ta part change, ta part de raison, ainsi soit-il, quelque chose de spécial, ta part d'horizon, d'inutile ou d'idéal.
C'est un moment que j'aime bien dans le Grand Atelier, c'est le moment des conseils. Est-ce qu'Antoine Waters est venu avec un conseil, je sais pas, de lecture ou de cinéma, ce que vous voulez, ou de musique?
Un recueil de poésie.
Un recueil de poésie.
Le livre qui vient de sortir de la chanteuse Clara Isée,
oui,
qui s'appelle « Des lances entre les phalanges » aux éditions Segers. J'aime son travail, j'aime sa musique et j'aime sa poésie. C'est son deuxième recueil. J'aime l'idée qu'elle aborde la poésie et la langue poétique comme une musique à part entière. Et je trouve que je parlais d'intégrité tout à l'heure par rapport au chanteur Arnaud. Je trouve que Clara Isée, c'est aussi quelqu'un qui est intègre dans le sens où on sent qu'elle est investie, qu'elle a quelque chose qui brûle en elle et qu'elle est fidèle à ça.
Elle a eu un drame dans sa vie, qui est la mort de sa mère, philosophe Anne Dufour-Mantel, que vous avez peut-être connu, vous, le philosophe.
Alors j'ai lu
ses livres.
J'ai lu ses livres, voilà, ouais.
Et cette mort, je ne dis pas ça pour un... Voilà, je le dis parce que ça nourrit sa poésie à elle, et ça nourrit sa chanson aussi. La noirceur, puis cette envie de lumière qui est toujours très présente dans ses chansons.
Absolument, et c'est ça que je trouve beau. Et puis il y a quelque chose au-delà de cette espèce de processus alchimique de transformation de l'ombre en lumière qui est présent dans son travail. Il y a aussi, je trouve que c'est une voix très contemporaine. À la fois, elle fait des pour moi, c'est des classiques. Ses chansons sont des classiques, ses poèmes sont des poèmes qui peuvent être des poèmes classiques, mais c'est très contemporain. Elle parle à la jeunesse d'aujourd'hui, aux vieux d'aujourd'hui. Elle parle des problèmes du monde contemporain, mais elle dit ça avec la langue qui est la sienne et qui est une langue, qu'on dit poétique, mais c'est surtout son monde, ses images, et c'est pas courant. On ne rencontre pas souvent des gens capables d'avoir un monde d'images aussi fort, et puis d'avoir une écriture qui est à la fois simple et riche, extrêmement riche.
Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise de vous que vous êtes poète, Antoine Wauters?
Parce que pour moi, la poésie, c'est un nom qui veut rien dire, quoi. Je suis quelqu'un qui a besoin d'écrire, mais je crois que dans mes livres, il y a de la poésie, il y a de la philosophie, il y a probablement de la littérature aussi. Mais
ce serait vous réduire ?
C'est une étiquette dans laquelle... Et puis on est dans un monde où la poésie, elle est pas valorisée dans notre monde.
Pourtant, il y a beaucoup d'auteurs de poésie aujourd'hui.
Ah oui, il y en a, attention que je suis un immense lecteur de poésie, j'adore ça, mais je ne me lève pas, je ne peux pas me considérer comme un poète. Parce qu'il y a des poètes qui sont ça dans tout leur être, qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, maintenant, depuis X années, j'écris plutôt des histoires, alors qu'ils sont marqués par une musicalité, mais c'est vrai que je ne pratique plus la poésie. J'ai commencé par là, d'où le fait que l'étiquette reste, mais j'ai plus écrit un seul recueil de poésie depuis 15 ans.
Non, mais vous l'avez intégré à votre prose.
C'est une manière d'être au monde.
Vous avez quand même écrit aussi un livre en vers libre.
C'est vrai, Marmoudou, la montée des eaux, c'était un... c'est sûr, mais peu importe le format, moi j'aime l'idée de l'hybridité, les choses transfrontalières, transgenres, est-ce que c'est du roman, est-ce que c'est de la poésie, peu importe, je pense qu'il faut sortir de soi ce qu'on a à l'intérieur et ce qui brûle d'être dit et exprimé.
Et vous, Sarah Gisler, j'ai l'impression que votre écriture, elle travaille avec l'oralité aussi, il y a un rythme de la langue parlée, je trouve.
Ben merci. Ben j'essaye d'écrire comme ça, oui. Et de temps en temps, j'écris de manière trop écrite, donc il faut que je casse le texte pour rester dans ce ton. Et j'essayais d'avoir le même ton dans Petite et dans Emmenez-moi, qui sont des livres très différents à 7 ans d'intervalle l'un de l'autre. Et je pense que j'ai réussi à rendre ça avec quelques modifications. Et quand on me dit que c'est un livre facile à lire, pour moi, c'est quelque chose de bien.
Sous perdu dans Manhattan. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien ce film. Il doit toujours être très bien. Je ne l'ai pas revu depuis sa sortie, mais il existe en DVD. Et Sarah Gisler, vous nous dites, c'est ça qu'il faut voir.
Voilà.
Pourquoi le beau film de Amos Kolek?
Alors, c'est un des 5 films que je préfère toujours confondus et qui me bouleverse à chaque fois que je le vois. Je voulais le voir hier soir pour me remettre un peu dans le bain, pour en dire quelque chose d'intelligent à la radio. Et en fait, j'étais là, mais en fait, je ne vois plus actuellement et je ne peux pas voir ce film sans un verre. C'est impossible. C'est beaucoup trop dur pour moi. C'est plus un hurlement intérieur qu'un film, selon moi.
Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, peut-être résumer un peu ce qu'on voit et l'action.
Alors, c'est une femme, Anna Thompson, qui est une actrice que j'aime énormément, qui est seule, voilà. C'est quelques jours dans sa vie, elle rencontre des gens, mais jamais vraiment, elle n'arrive pas à aller jusqu'à eux. Et elle vit dans une misère, émotionnelle qui, moi, me bouleverse, parce que de temps en temps, je la ressens aussi. Et c'est ce portrait de femme que j'ai jamais vu ça au cinéma. C'est poignant, c'est sensible et c'est très juste. Ça en fait jamais trop. C'est un film formidable. Je pense que je devrais arrêter de parler puis aller voir le film.
Vous avez envie d'écrire des films, des scénarios?
Non, surtout pas, parce que j'adore le cinéma plus que la littérature et que les livres. Et si je commence à travailler dedans, ça va casser la magie, j'ai l'impression.
Est-ce que vous n'avez envie que d'écrire des romans?
Je sais pas ce que je vais faire de moi.
C'est une question?
Oui, non, je sais pas. Je sais pas si je vais écrire encore, je sais pas si... j'ai aucune idée.
Ah, vous êtes fascinants tous les deux. Wauters vient de nous dire, je sais pas, il me reste 3 livres à écrire alors qu'il a 44 ans.
Bah, c'est déjà bien, non?
Vous êtes prêt à faire autre chose? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Reprendre des cours de philo?
Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que quand on. Je trouve que ce qui est triste, c'est quand on voit quelqu'un qui est arrivé au bout de ce qu'il avait. Et il y a un bout de ce qu'on a à dire, je crois. Et quand on est arrivé au bout et qu'on continue, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais l'enthousiasme, pour moi, c'est quand on est en train de faire quelque chose, d'écrire un livre, être complètement heureux, investi, passionné, obsessionnel. Et pour le moment, je l'ai encore. Mais c'est vrai que ça ne me déplairait pas de pouvoir m'enthousiasmer pour quelque chose de nouveau que je ne connais pas encore. Enfin, j'ai le rêve de... Je voudrais devenir joueur de tennis professionnel, mais je crains que ce soit un peu raté.
Antoine Water, c'est impossible.
Voilà, on me le dit régulièrement, mais j'aime le répéter quand même.
Vous pourriez être bûcheron dans votre forêt.
Oui, ben voilà, peut-être ça. Non, et puis, non, mais vivre, c'est un beau programme aussi, vivre.
Vous savez ce qu'on va faire ? On va se quitter avec les mots de Virginia Woolf. Ah, vous adorez ces journaux. Oui, on écoute un extrait de Virginia Woolf, un extrait d'un journal.
Nous avons passé la matinée à musarder dans le jardin et fait un tour en barque sur l'étang. J'avais, à l'aide de deux filets à provisions, charrié mes affaires de la malle au papillon rouge jusque dans ma chambre et m'étais installée avec l'intention d'essayer de lire du grec. Quel fiasco lamentable! À trois reprises, Nessa m'a dérangée pour finalement me demander d'aller à la gare en voiture à cheval. Mon Dieu, le style de cette œuvre mériterait d'être sérieusement remanié. Tous ces détails vont finir par m'engloutir à la longue. Je me rends compte que je suis plus à l'aise pour écrire que pour tenir un discours, sensé ou non. L'écriture me serait d'un grand secours si je devenais muette tout d'un coup.
Je vous remercie d'aimer Virginia Woolf parce que ne serait-ce que ces quelques mots d'un journal donnent envie de lire ou relire Virginia Woolf. C'était Antoine Waters, merci.
Merci à vous Vincent.
Qui
merci.
Repart en Belgique. Je rappelle le titre de votre roman Haute Folie. Et puis Sarah Gisler qui repart en Suisse peut-être ce soir.
Demain.
Demain, les aux Équateurs, emmenez-moi. David Leprince a réalisé cette émission. Marion Guilbeault et Alexandra Conet m'ont aidé à la préparer. Valentine Chédebois a programmé la musique. Il y avait à la technique Gaspard Guy Bourget.